France Info.
France Info.
À la une d'un monde d'info aujourd'hui, l'ONU en pleine crise financière. Il manque près de 186 millions de dollars pour distribuer de la nourriture en Afrique notamment. En Inde, la parole des femmes se libère après les réformes policières. Les Indiennes osent porter plainte pour viol, désormais principalement dans les grandes villes. Mais tout d'abord, le bras de fer entre l'industrie du tourisme et la défense des traditions. Et c'est à Taïwan, au large de la Chine, que se joue ce bras de fer. 23 millions d'habitants, dont 500 000 aborigènes dans ce pays. Des tribus installées sur l'île il y a déjà plusieurs siècles. Aujourd'hui, ce peuple aborigène tente de protéger sa culture traditionnelle, mais il se heurte au gouvernement qui veut développer le tourisme de masse à Taïwan. Sur la côte Est, par exemple, la construction d'un complexe hôtelier provoque une vive polémique. Reportage Clément Robin.
Nous sommes sur la plage de Shan Yuan. Face à nous, des collines couvertes de forêts tropicales se jettent dans l'océan Pacifique. À notre gauche, à une cinquantaine de mètres de l'eau, le grand hôtel Mei Li Wan, magnifique baie en mandarin, fait face à la mer.
Actuellement, c'est l'été, la marée est basse, donc on a l'impression qu'il y a plus de distance entre la mer et l'hôtel. Mais vous voyez cette petite cabane de sauveteurs juste devant l'hôtel ? Eh bien, en hiver, la mer va jusqu'à là-bas.
Shuling est une amis, une des nombreuses tribus aborigènes taïwanaises. Après ses études, elle est rentrée dans son village pour vivre à la façon traditionnelle de la pêche et de l'agriculture. En découvrant l'immense complexe hôtelier de 6 hectares sur sa plage, c'est un choc.
Déjà pendant la construction de l'hôtel, la plage a été dégradée. Alors si jamais il ouvre finalement ses portes, les touristes viendront en masse. L'impact sera dramatique pour la plage, mais aussi pour le village où vivent les aborigènes comme moi.
Nous nous rendons chez Huang Wenming. C'est le maire de Fusan, village de 600 habitants dont dépend la plage de Shan Yuan. Il nous explique que ce complexe hôtelier est une aubaine pour l'économie locale, qu'il pourrait créer de nombreux emplois au moment où les jeunes sont obligés de quitter leur village pour trouver du travail. Pour lui, le combat des écologistes est purement idéologique.
Je suis né en 1957. À l'époque, ici, il n'y avait pas d'électricité. Du coup, on utilisait des lampes à huile pour s'éclairer. Je vivais dans une cabane construite en bambou et en feuilles d'arbre. Et puis, les tuiles sont arrivées et le ciment. Et aujourd'hui, on vit bien mieux. Les écologistes disent qu'il ne faut pas détruire l'environnement. Dans ce cas, on fait quoi? On laisse tomber nos voitures et nos scooters et on fait tout à pied.
La construction de l'hôtel Mei Li Wan a commencé en 2005 et depuis, les travaux ont été constamment retardés par des recours au tribunal administratif. Les juges ont finalement donné raison aux associations écologistes fin 2013, ordonnant la fin des travaux. Nous rencontrons Takana, c'est un musicien d'une autre tribu aborigène très engagé contre le complexe hôtel. Pour lui, la lutte doit continuer pour éviter que d'autres projets de ce type ne voient le jour sur la côte taïwanaise.
Ce genre de tourisme intensif risque de diviser la communauté aborigène. Face à ce genre de crise, c'est le rôle du gouvernement d'agir pour mettre fin au problème. Et nous, les aborigènes, nous devons réfléchir aux moyens de nous unir pour affronter ce genre de projet. Car le tourisme tourné vers la consommation, je ne suis pas sûr que ça nous aide vraiment.
Aujourd'hui, les promoteurs de l'hôtel estiment à 245 millions d'euros le coût de la construction et menacent le gouvernement local de réclamer des dédommagements. En attendant, l'hôtel fantôme fait toujours face à la mer sur l'une des plus belles plages de l'est de Taïwan. De retour de Fusan, Clément Robin, RFI pour France Info.
Le commerce de l'ivoire en Thaïlande menace la survie des éléphants d'Afrique. L'organisation Trafic tire le signal d'alarme aujourd'hui et appelle le gouvernement thaïlandais à réagir. La Thaïlande autorise en effet le commerce de l'ivoire de ses propres éléphants domestiques, alors qu'il existe pourtant un embargo sur le commerce international de l'ivoire. C'est une faille dans laquelle s'engouffrent les trafiquants d'ivoire qui écoulent ainsi l'ivoire des éléphants d'Afrique. Le nombre de boutiques vendant des bijoux a quasiment doublé l'an dernier à Bangkok et plus de 20 000 éléphants d'Afrique ont été tués en 2013. Par des braconneurs. L'ONU appelle à l'aide financière. Les Nations Unies n'ont plus assez d'argent pour des actions primordiales, comme l'aide alimentaire par exemple. Il manque près de 190 millions de dollars. Un appel de fonds a été lancé hier par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Et en attendant, des mesures drastiques ont dû être prises. Laurent Mossu.
Les rations alimentaires de quelque 800 000 réfugiés africains ont été réduites. Faute de moyens financiers, l'ONU coupe jusqu'à 60% les quantités de nourriture distribuées et n'exclut pas de limiter davantage encore les portions journalières. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat aux réfugiés agissent de la sorte. Ils craignent les effets dévastateurs de ces restrictions alors que les intéressés souffrent d'ores et déjà de malnutrition, de retard de croissance et d'anémie. Mais le manque d'argent impose ces mesures particulièrement néfastes pour les enfants qui forment la moitié des contingents de réfugiés. Le Programme alimentaire mondial subvient quotidiennement aux besoins de 2,4 millions de personnes réparties dans 200 sites de 22 pays africains. Pour remettre la machine en route et restaurer les aides alimentaires à un niveau décent, l'ONU a besoin sans délai d'un quart de milliard de dollars. À Genève, Laurent Mossu, RFI pour France Info.
On s'arrête maintenant en Inde où de plus en plus de jeunes femmes osent porter plainte pour les viols qu'elles subissent dans le pays. La parole se fait plus libre dans les grandes villes notamment, alors que le gouvernement indien a adopté plusieurs réformes pour inciter ces femmes à se défendre. Résultat, deux fois plus de plaintes en un an. Sébastien Farcy.
Avec 4 viols rapportés chaque jour en 2013, New Delhi reste la ville qui connaît le plus d'agressions sexuelles en Inde. Et alors que ces plaintes ont connu une augmentation de 35% dans le pays, elles ont doublé dans la capitale ainsi qu'à Bombay. Les femmes urbaines osent donc à présent parler, alors que la police, sous pression depuis les révoltes de la fin 2012, accepte d'engager des poursuites. Mais la justice reste très lente à traiter ces affaires malgré la mise en place de cours express. Du reste, dans la campagne, où vit les 2/3 de la population, c'est encore l'omerta, comme l'explique Ranjana Kumari, une féministe de premier plan et directrice du Centre pour la Recherche Sociale.
Dans les zones rurales, la police et les communautés continuent à faire pression sur les victimes pour qu'elles ne portent pas plainte, afin de ne pas faire honte à la famille. C'est pour cela qu'on estime que seulement 2 à 3% des cas de viol dans les campagnes sont révélés.
Cette militante a participé au projet de centres d'accueil spéciaux pour les victimes d'agressions sexuelles, qui réunirait médecins, psychologues, policiers et avocats et pourrait bientôt être créé dans les 100 districts les plus touchés par ces crimes en bénéficiant d'un budget de plus d'un milliard d'euros voté l'année dernière. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Info.
Les excuses publiques d'un député au Japon accusé de détournement de fonds publics pour l'équivalent de 30 000 euros. Cet élu de 47 ans s'est littéralement déchaîné lors d'une conférence de presse à Kobe cette semaine. Des pleurs, des cris de désespoir, des coups de poing sur la table. Ces excuses publiques ont duré plus de 3 heures. L'indépendance de l'Écosse, c'est non pour Shrek, plus précisément pour l'acteur Mike Myers qui donne sa voix à l'ogre du dessin animé. Un référendum sur l'indépendance de Glasgow aura lieu dans 2 mois, le 18 septembre, et plusieurs personnalités ont déjà fait connaître leur avis. C'est le cas pour cet acteur très connu dans le pays, mais aussi pour J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, ou pour le chanteur David Bowie. Les derniers sondages donnent les indépendantistes perdants avec 20 points de retard sur ceux qui défendent le Royaume-Uni. Et puis vous l'aurez corrigé, bien sûr, en Afrique, hein, il s'agit de braconniers qui tuent les éléphants pour vendre l'ivoire, malgré l'embargo international sur le commerce d'ivoire.